L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
De l'Université du Mans au volcan argentin. C'est le voyage qu'ont réalisé deux scientifiques sartois, Alain Zanella et Régis Mourgue, au début de l'année 2025. Enfin, je dis voyage, mais c'était une expédition scientifique financée par des fonds européens. Et pour en parler, nous recevons Alain Zanella. Bonjour.
Bonjour.
Avant de raconter ce voyage, parlons un petit peu de vous. Vous êtes géologue, vous travaillez au laboratoire de planétologie et de géosciences à l'Université du Mans. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que la géologie, en quelques mots, et en quoi consistent vos spécialités ?
Alors, les géosciences, d'une manière très large, en fait, c'est toutes les sciences qui s'intéressent au fonctionnement de la planète. Hein. Ça peut être ce qu'il y a interne dans la planète, donc ce qu'il y a vraiment sous nos pieds, mais aussi externe, le climat. Ça peut être la planétologie également, hein, d'où le nom du laboratoire. Et ça peut être tout ce qui va être ressources également. Donc, c'est extrêmement large comme science.
La géologie, donc, c'est une science qui se développe fortement à l'Université du Mans ?
Oui. Le laboratoire le LPG, comme on le nomme, hein, laboratoire de planétologie et géosciences, en fait, c'est le même laboratoire au Mans, à Angers et à Nantes. Et c'est quelque chose qui se développe, effectivement, avec des thématiques principalement axées sur, effectivement, le climat, mais aussi les ressources naturelles.
Et quand on est géologue, alors, les voyages sur le terrain, c'est fréquent, c'est obligatoire ?
C'est pas forcément obligatoire parce qu'il y a différentes spécialités, mais c'est quelque chose qui nous anime beaucoup au Mans en tout cas, parce qu'on aime bien avoir une approche comparée en faisant de la modélisation, mais également en allant prendre des données directement sur le terrain.
Mais alors comment vous est venu ce besoin de partir en Argentine ? Pourquoi vous, tout simplement vous avez réalisé en fait cette expédition ?
Alors le premier point c'est que j'ai une connexion avec l'Argentine qui date de très très longtemps, puisque je vais en Argentine depuis environ 2010. Et c'est surtout qu'en Argentine... Eh bien, il y a beaucoup de partenaires que j'ai dans le monde de la recherche. Et cette idée en fait, d'expédition me trotte dans la tête depuis presque 10 ans. Mais le temps de trouver les fonds, le temps de construire une équipe et de se dire on y va et de tout designer en amont, bah, ça prend beaucoup de temps. Et c'est une mission qu'on a reportée une fois. On devait le faire l'année dernière et puis bah, finalement, on l'a fait cette année.
Et alors, quel lieu vous avez exploré sur place et qu'est-ce que vous avez fait, en fait, concrètement, là-bas en Argentine ?
Alors, en fait, on a trouvé un lieu perdu au fin fond des Andes, à peu près à la même latitude que la ville de Buenos Aires, mais en plein ouest, vraiment à la frontière entre le Chili et l'Argentine. C'est situé entre, grossièrement, 2000 et 4000 mètres de haut. Et c'est une zone qui n'a quasiment pas été visitée depuis 100 ans. Et en fait, on sait qu'il y a eu des ressources naturelles, notamment des métaux rares, dans cette zone, mais aussi on peut y voir justement tout un contexte magmatique et notamment ce qu'on n'arrive pas à voir d'habitude, c'est-à-dire ce qu'il y a sous un volcan, bah là on peut le voir parce que les roches sont remontées à la surface et on peut voir réellement ce qui constitue ce qu'on appelle la racine d'un volcan.
Et pour vous, c'est quoi alors l'intérêt concret en observant cette racine du volcan ?
L'intérêt concret, c'est de comprendre un petit peu comment les fluides et donc le magma, qui est liquide quand il remonte, eh bien, traverse les roches, quel chemin il emprunte. Et après, quel va être son effet sur les roches, c'est-à-dire comment il va réchauffer les roches, comment il va produire potentiellement des ressources, et comment ces ressources peuvent être mises un petit peu, je dirais, dans la balance de l'économie actuelle, qui est, avec toute cette transition énergétique, qui est de savoir, il y a des ressources, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on doit les exploiter, est-ce qu'on doit les laisser comme ça, et comment on s'inspire un petit peu des phénomènes naturels pour créer notre monde, je dirais, actuel de consommation.
Alors, vous avez dit que ce qui vous intéressait particulièrement là-bas, c'est des métaux rares. En fait, à partir du moment où un matériau est rare, il va vous intéresser en géologie ?
Alors, pas forcément, parce qu'il y a différentes disciplines, mais c'est vrai qu'à travers, moi, mes spécialités, notamment dans le domaine des ressources et dans le domaine du stockage de CO2, puisque j'ai un projet sur le stockage de CO2, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de voir comment, nous, en tant que géologues, on peut trouver des manières d'assister, en fait, cette transition énergétique qui est nécessaire. Mais qui dit transition énergétique dit aussi une conscience collective qu'on doit avoir, qui est, peu importe la transition qu'on va faire, nous devons trouver des ressources pour pouvoir réaliser cette transition. Et ça, les géologues, en fait, ils sont au cœur du problème, puisque c'est bien les géologues qui vont, justement, entre guillemets, à la pêche aux ressources.
Et maintenant que vous êtes rentré, quel bilan vous tirez de cette expédition ? Est-ce que ça a été positif ? Vous êtes satisfait des résultats que vous avez obtenus ?
Oui, on est satisfait parce qu'effectivement, il y avait des objectifs qui étaient scientifiques. Hein. Ça, c'était les premiers objectifs. Et donc, en termes de scientifiques, on a acquis des données. Et c'était une aventure très intéressante de ce point de vue-là. Mais je dirais qu'on a aussi beaucoup appris d'un point de vue humain, puisque dans l'équipe, vous l'avez dit, il y avait Régis Mourgue de l'université qui participait, mais il y avait aussi trois autres collègues, deux qui sont scientifiques et une qui n'est pas du tout scientifique, puisque c'est Amélie Leray qui est photographe sur Le Mans, à qui j'ai demandé de participer à cette aventure pour couvrir, entre guillemets, l'événement d'une manière médiatique, mais à travers la photo. Et comment elle, à travers sa perception de son travail, peut apporter aux personnes non scientifiques ce que nous, on a ressenti quand on était sur le terrain.
Alors justement, on va y venir un peu plus tard à la vie postérieure, on va dire, de cette expédition avec les différentes choses que vous avez pu prendre en photo là-bas ou aussi filmer. Mais maintenant que vous êtes rentré, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces observations que vous avez effectuées? Là, je parle vraiment du travail scientifique à partir des matériaux que vous avez observés.
Alors, ce qu'on va en faire, il y a deux choses. Il y a des données qu'on a récoltées, notamment sur la mise en place des magmas en profondeur. Donc là, la suite logique des choses, c'est qu'on a pris des échantillons. On va essayer de les dater pour savoir quand est-ce que le magma il s'est mis en place, par exemple. Ensuite, on va regarder la composition du magma pour savoir la profondeur, d'où il vient, quelle est son origine, comment il a cristallisé. Ça nous donne des renseignements un petit peu sur le fonctionnement de cette chaîne de montagne et puis sur le fonctionnement du magma qui y est associé. Et puis, dans un deuxième temps, on a récolté aussi des données un petit peu de ressources. Donc, on a récolté ce qu'on appelle du bitume, notamment. Alors, il ne faut pas voir dans le mot bitume ce qu'on peut, nous, connaître, c'est-à-dire une route. Hein. C'est un matériau naturel qui ressemble furieusement à du charbon, mais qui n'est pas du charbon. C'est un processus différent de formation et qui nous renseigne justement sur la teneur en métaux rares qu'on peut trouver dans la région.
Au-delà de l'aspect scientifique, c'était une vraie aventure, rien qu'au niveau de l'accessibilité des sites que vous avez visités. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vous y êtes rendu, comment vous vous êtes déplacé aussi sur place?
Alors, l'expédition a duré 10 jours, et donc on était à cheval. On était un total de 9 personnes, puisqu'il y avait des guides avec nous. On avait 16 chevaux, à la fois pour nous, mais aussi pour le matériel qu'on a emporté. On a tout emporté, on était en parfaite autonomie. La seule chose qu'on n'a pas emporté au final, c'est l'eau, puisqu'on buvait l'eau des rivières. On a dormi tous les jours à la Belle Étoile, donc il y a pire dans la vie. C'est une expédition qui était très forte, je dirais, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus tous les jours. On était avec des personnes locales. Je pense beaucoup aux deux Argentins, les gauchos qui nous ont accompagnés, à qui appartenaient les chevaux. Et du coup, les liens se créent. Et puis, on a pu discuter aussi de nos thématiques à eux, comment eux percevaient cette exploitation des ressources d'un point de vue local, d'un point de vue aussi international. Et donc, on a beaucoup appris, même nous, même si je connais beaucoup l'Argentine, c'est toujours un plaisir aussi d'échanger avec les populations locales, de voir, entre guillemets, des Français qui débarquent pour faire une étude. C'est surprenant de voir comment on est accueilli. C'est un pays extrêmement chaleureux, mais qui a conscience que les ressources sont nécessaires, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc, je dirais, d'un point de vue humain, on a beaucoup appris. Et surtout même, le groupe qu'on a formé, on pouvait compter que sur nous. Et donc, ça renforce les liens et forcément, ça crée un groupe extrêmement soudé. Et on reste forcément en contact. Et puis, on a prévu de se revoir dans pas longtemps pour le travail, mais aussi pas que, quoi.
Et comment vous vous êtes préparé à cette expédition qui a dû être quand même assez éprouvante à la fois physiquement et mentalement? Est-ce que comme un sportif finalement, vous vous êtes entraîné en faisant de la randonnée, peut-être en apprenant à monter à cheval? Je ne sais pas si vous étiez cavalier avant.
Alors justement, c'est un point intéressant, c'est que quand on fait des missions comme ça, il faut effectivement se préparer. Préparer à monter à cheval, alors il y en a certains qui se sont préparés, d'autres non. D'autres qu'on avait déjà fait, d'autres non. Donc chacun est un peu différent. Sur la marche, le contexte physique également, il faut avoir une certaine forme physique parce qu'on marche quand même beaucoup tous les jours. Hein. Il y a des jours, on marche plus de 15 km. On est à une altitude entre 2500, 3500 mètres quand on a marché. Il y a des zones qui sont relativement dangereuses aussi. Donc, c'est vrai que c'est tout un écosystème qu'on a du mal à percevoir. Et certains d'entre nous qui ont fait un petit peu de cheval avant, ce qui n'est pas mon cas, qui ont pris quelques cours, eh bien, m'ont dit, on a pris quelques cours, mais en fait, est-ce que ça nous a réellement servi à quelque chose? On ne sait pas, parce que la manière de monter est différente. On n'est pas dans un manège ou dans une carrière où on monte comme chez nous. Là, c'est vraiment en pleine nature. Ce n'est pas des selles comme chez nous. Donc, tout est différent. Les chevaux répondent d'une manière totalement différente. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui perturbe un peu au début, mais on s'y fait très, très bien. On était extrêmement bien accompagnés, donc il n'y avait aucun souci.
Et vous n'êtes pas seulement attiré alors par les résultats scientifiques ou juste le défi du voyage. Ce qui vous intéresse, c'est aussi la diffusion de votre travail. Justement, vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Il y aura déjà la valorisation des photos qu'a fait Amélie Leré. Mais vous avez aussi, vous, filmé votre voyage dans le but d'en faire un documentaire. Alors, est-ce que ce n'était pas trop dur à gérer cette double casquette, à la fois scientifique, à la fois aussi caméraman?
Si, c'était quelque chose de... qu'on avait tenté de préparer, mais il y a toujours des aléas. Quand on n'est jamais allé sur le terrain, voilà, c'est un peu compliqué de prévoir certaines choses. Mais on a essayé de prendre le maximum de séquences possibles. L'idée réellement qui est dans notre tête, c'est de produire un documentaire, mais pas un documentaire scientifique, purement scientifique. L'idée, c'est qu'on partage avec les personnes un peu aussi notre quotidien, nous, dans notre métier à l'université. Alors là, c'est les géosciences, hein, bien sûr, mais au final, on est tous un peu pareil quand on est à l'université en tant qu'enseignant-chercheur. L'idée, c'est qu'on partage avec tout le monde ce qui se fait dans une université qui peut être parfois pas très préhensible pour tout le monde et de montrer un petit peu, voilà, on est amené à partir en mission, comment on implique les personnes locales sur le terrain, comment aussi on vit, nous. C'est un contexte de travail qui est un peu particulier. On s'absente parfois un peu longtemps de nos familles. Moi, c'est mon cas, je pars pas mal de temps à l'étranger. Et donc, du coup, l'idée, c'est de partager tout ça et puis de créer un lien avec les habitants du monde dans un premier temps, et de projeter ça au cinéma. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, en tout cas d'un point de vue local, d'associer l'exposition photo d'Amélie Leray.
Oui, parce que ces photos vont devenir une exposition.
Exactement. Et puis, il y a un partenaire que j'ai souhaité dans cette aventure, c'est l'école d'Aigné. On a souhaité mettre aussi à contribution les enfants pour voir un petit peu leur regard sur l'énergie. On leur a demandé de faire des dessins d'une manière très simple, qu'on affichera forcément lors de l'exposition. Et c'est assez surprenant ce que peuvent sortir comme dessins des enfants de 7 ans sur les thématiques de l'énergie. Parce que voilà, on a passé 2 jours avec eux et on leur a raconté notre périple. On a fait une visio aussi quand on était très très loin le matin. Et donc ça leur a permis de suivre une expédition et c'était très intéressant.
Ça en fera peut-être de futurs géologues alors?
Ce qui est certain, c'est que la maîtresse nous dit qu'ils n'arrêtent pas de creuser la cour pour trouver des cailloux. Et donc ça, voilà, le message est déjà passé. Donc c'est rigolo, mais à travers ces interactions, nous, ça nous permet aussi de nous rapprocher un petit peu d'un public plus jeune et de comprendre un petit peu les attentes et la perception qu'ont les personnes du domaine de l'énergie, qu'elles aient 7 ans, 20 ans, 80 ans, peu importe. Ça, c'est aussi très intéressant.
Merci beaucoup Alain Zanella, géologue à l'Université du Mans, d'avoir répondu à nos questions concernant votre expédition scientifique en Argentine.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.